Françoise Tressard et la belle équipe en piste pour la récré littéraire à l'affiche. Joli dimanche, état de choses et morceaux de choix pour collectionneurs. L'air de repos de la Coucourde par Serge Joncourt.
Il ouvrit sa portière et marcha vers nous, l'œil bavard et l'air conquérant. Je ne comprends pas qu'il nous dit. Je conduisais en parlant au téléphone. Quand tout à coucou, je me suis mis à coco. Oui.
Une brève histoire de poche par Jacques Abertrand, la publipapoucité Yourcenar et drôle d'épistolier avec Hervé Le Tellier dans la peau de Dracula.
Moi j'aime m'habiller en noir, so what? Est-ce un crime de porter la cape avec élégance? Est-ce un crime de ne pas aimer l'odeur de l'ail? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas? Alors bref...
Ensuite, cerise sur le gâteau du dimanche. Des mots nouveaux pour le dire, les mots de Deal Conseil pour Serge Joncourt et Jacques Vallée. On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Merci de votre fidélité au Papou et que les nouveaux entrent dans le cercle. C'est une émission à podcaster pendant un an sur franceculture.fr. À réécouter 1000 jours et même la nuit. Et pour ouvrir ce numéro des Papous du 15 février 2015, un joli dimanche avec Jacques Vallée, poétiquement notre Jacques Vallée, pour un dimanche façon Aragon.
Connaissez-vous le beau dimanche? Connaissez-vous dimanche roi? Tous les deux ensemble se penchent dans le miroir de mes ébois, quand, cœur léger, je t'aperçois. Connaissez-vous dimanche à cœur? Fait de caresses et de soieries, c'est lui qui fleurit sur ton cœur entre orage et fâcherie, comme le ciel après la pluie. Dimanche or et dimanche trêve, que recherchent les songes creux. Dimanche jeu et dimanche rêve, ceux des amants vaporeux et dimanche des langoureux. Connaissez-vous dimanche soir? Connaissez-vous dimanche nuit? Tous les deux vivent d'espoir, comme au loin une lueur luit, comme à la branche pend le fruit. Tous les dimanches que je chante, tous les dimanches que j'agrée, tous les dimanches que j'invente, je les vante ici sans succès face au dimanche que tu es. Oh.
Qui dira le bonheur d'être chose, toute belle dans son emballage sorti d'usine ou d'ailleurs d'un paquet cadeau par exemple, dont on déchire fébrilement les coins, le regard dans le vague de celui qui la reçoit alors qu'il espérait autre chose? Qui dira le chagrin d'être chose, devenue moche, a trop servi ce périm, la recherche a fait des progrès? Pas bon pour les choses anciennes, la recherche. Bref, les choses ont un quotidien à vivre et à nous raconter. Et c'est Lucas Fournier qui narre sa vie de choses.
Chers auditeurs et auditrices, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Je suis moi-même une carte. Mais pas une carte à jouer ordinaire en rouge et noir, mais une vraie carte française. La carte routière numéro 80. Alors, numéro 80, ce n'est pas la Somme, non.
Ah bah,
la 80,
la question, oui.
C'est la Rodez-Nîmes. Ah. Je suis une carte pliable à la main, à l'ancienne, avec des couleurs, des ruisseaux, des bourgades, des panoramas, une carte saveur d'antan, une carte sans puce, mais avec une mémoire, la vraie, la belle mémoire de la douce France, la mémoire des territoires, comme dirait Welbeck, des routes nationales que chantait Traîné, des petits chemins qui sentent la noisette façon Mireille et Jean-Noël, et des grands chemins arpentés par Giono. Alors pour Giono, voir ma collègue numéro 81, Avignon Digne. Oui, la France des voies vicinales, celle que les scarifications brutales des autoroutes ont anéantie. Alors il m'est interdit ici de vous donner mon nom. Je suis la carte M, trois petits points. M, la maudite, aujourd'hui, longtemps M, la magique. Je fus créé à Clermont-Ferrand. voir la numéro 73, Clermont-Lyon, par un illustre fabricant français de pneumatiques et de guides de couleur verte. Alors, je suis une carte pour personne intelligente. C'est vous dire si j'ai peu de place dans la société d'aujourd'hui. Oui, je suis la carte qu'il faut savoir déplier, orienter, lire. Et dans ce monde où rien ne se déplie et où tout se rétracte, dans ce monde où rien ne s'oriente et où tout se désaxe, dans ce monde où l'on ne lit plus, mais où des écrans vous dictent la voie à suivre, à 100 mètres, prendre la première à gauche. Dans ce monde-là, je sens bien que je suis de trop, que je gêne,
un peu, ouais.
Que je dérange. Mmh. Oui. Je suis donc la carte numéro 80, Rodez Millot. Si vous voulez aller au-delà de la Canourgue, il vous faut la numéro 76,
ouais.
Aurillac-Saint-Étienne. Et si vous voulez pousser vers le sud, alors utilisez la 84, Marseille-Menton. Avant la France vue du ciel, existait cette France vue des cartes façon puzzle. Une seule carte vous manquait et la France était dépeuplée. Cette France où Arras-Mézières numéro 53 jouxtait Cherbourg-Rouen numéro 54. Il n'y a que vous qui comprenez, parce que qui sait encore où se trouve Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, qui vit naître Robespierre et la Nubidas, merci, qui connaît Cherbourg ou Roland Barthes et Jean Marais
et Jacques Demy
vinrent sur terre. Ah, notre jeu de cartes est complexe, mais c'était aussi la marque du génie français. Aujourd'hui, moi, le produit de ce génie français, celui de l'enfant amoureux des cartes et des estampes, comme dit le poète, moi, je suis dans la boîte à gants. Oui, madame, vous me direz, Millau est bien la capitale mondiale du gant, alors Millau-Rodez, 80 dans la boîte à gants, pourquoi pas?
C'est logique.
Oui, mais de gants, il n'y en eut jamais dans cette boîte à gants. Vous pensez qu'il existe encore des gentlemen drivers assez raffinés pour avoir la délicatesse de prendre des gants pour tenir un volant? Mais non, tout cela est fini. Ce sont des doigts poisseux aujourd'hui, des sans-gants, Françoise, qui nous dirigent. Boîte à gants, sarcophage de plastique où je suis retenu avec la Balsacienne, Angoulême-Limoges, numéro 72, avec la Bretonne, Brest-Quimper, 58, l'année du retour du général, avec l'oxymorienne Beaune-et-Vian, on doit mettre de l'eau dans son vin. Pauvre France! Moi-même, cela fait 5 ans que je suis là. Et dans quel état? On m'a replié à l'envers. Oui. Non seulement les femmes ne savent pas lire les cartes,
mais elles savent pas
mais
les
hommes ne savent pas les plier. Je suis un peu plié, et ce n'est pas du bon boulot, comme disait Pierre Dac, un grand français. La dernière fois que j'ai servi, c'était à la sortie de Sévrac-le-Château, pour chercher la direction du Quélard. Elle n'a pas trouvé. Lui s'est énervé, et ça n'a pas fait un pli, il m'a prise à l'envers, et je me suis retrouvé comme un poulpe dont on retourne la poche. Et me voici avec une scoliose qui va de la Canourgue à Saint-Rome-de-Cernon, dans l'obscurité, coincée contre les feuilles du dernier contrôle technique, et une vieille bêtise de Cambrai, oubliée là, carte 51, Odile, Boulogne-Lille, qui me colle au dos comme un furoncle sucré. Alors nous voici condamnés comme des détenus à devoir supporter les inepties que déverse le haut-parleur de l'autoradio placé juste en dessous de nous. Je sais que je n'ai pas le droit de commenter ici ce que l'on entend sur la modulation de fréquence. Disons que la modulation n'est pas toujours mélodieuse. Et puis, ce qui faisait naguère le piquant des voyages, ce petit supplément d'âme conjugale où nos maîtres et maîtresses devenaient pour un instant, à cause de nous, des héros de Tennessee Williams, se disputant, s'insultant, même ces moments de détente ont disparu. L'ordinateur de bord ne se trompe pas, le trajet est toujours juste. Nous, les cartes routières, naguère champ de mine de l'ordinaire conjugal, ne faisons même plus mal. Et moi, je dis qu'un pays dont les couples ne s'engueulent plus en voiture est perdu. Avec nos collègues, nous sommes entrés en résistance. Un jour, le bug viendra et nous serons là, fidèles, prêts à servir la grandeur de la France et de ses transports terrestres. Vive la République, vive la France.
Oh, elle est magnifique, mais elle a de la chance d'être encore dans la boîte à gants. Hein.
Oui.
Parce que moi, j'en connais qui sont...
Vous en aviez ?
Oui, j'en ai toujours, oui. Mais elles sont sur des étagères aux toilettes. Alors, vous voyez, c'est écoutez, beaucoup moins glorieux.
Merci.
J'aimerais bien savoir, Ricardo Mosner, si vous avez un point de vue sur cette vie quotidienne de carte routière un peu au rebut, malgré tout.
Oui.
Elle est belle, elle est... pliée, pas dans ses plis, donc elle a mal partout. Enfin, on peut compatir.
Oui, mais c'est moi qui compatisse le plus.
C'est vrai, parce que vous êtes qui?
Moi, je suis des villages sans nom.
Ah, oui. Vous n'êtes pas sur la carte.
C'est pas exactement. C'est la désolation. J'ai disparu de la carte. Avec mes maisons, mes carrefours, pas les supermarchés, mais ces ronds-points avec ces deux chevaux et les monuments aux morts. Disparu les nuages, les oiseaux, les vaches, les fermiers, les moutons et tout le bazar. Même qu'on était dessiné dessous avec des couleurs aquarellées, bleu ciel pour les lacunes et les étangs, brun rougeâtre pour les reliefs. Tous ces bonheurs gommés, rayés de la carte, pire encore, engloués, collés, dégueulassés. Quelle bêtise, cette saloperie des bêtises des Cambrais, que sur notre malheureux village. Aujourd'hui, sa nom s'est incrusté, enfoui.
Ah, quelle horreur.
On est enfoui sous les sucres poisseux, quelle honte. Enlevez-moi ces trucs collants, qu'on voit notre nom et notre surface, qu'on nous rende notre fierté.
Bah, c'est légitime, hein. Ah oui, ça on le comprend.
Il s'est collé
mais,
là,
mais qui dans la famille des gens qui vous possèdent, Lucas, a eu cette idée idiote de mettre une bêtise de Cambrai dans la boîte à gants?
Un sachet de bonbons qui se perce et puis voilà.
En plus, pour aller à Cambrai, on n'amène pas son
on sa bêtise, pas sa à bêtise à Cambrai.
On va la chercher sur place.
Vrai, vous avez raison, moi je trouve votre colère digne. Ricardo, Odile Conseil, vous partagez son point de vue, j'imagine. On ne peut pas ne pas le partager, de toute façon.
Ah non, non, moi pas du tout, parce que je suis la Boulogne-Lille, la 51.
Oui.
Et en fait, je ne comprends pas pourquoi déjà la 80 semble si malheureuse. Alors peut-être parce qu'elle n'a pas, comme moi, un nom de pastis, un nom qui évoque le soleil et le chant des cigales. Et moi, j'aime la compagnie des autres. De la 72 qui me raconte les routes bretonnes et l'odeur pâtissière déjeuner, les côtes déchiquetées par la morsure de l'océan. Pensez, moi qui n'ai alors montré que d'immenses plages où l'infini du ciel se noie dans celui des eaux grises, où des canards neurasthéniques se pendent au plafond des nuages, où de vagues rochers n'arrêtent pas les vagues.
Mais comme pensez, elle parle bien.
Pensez si
oui.
Ça me fait rêver.
Oui.
Et le petit chemin de terre, celui qui est en pointillé sur la 80 et qui monte vers Sévrac le château. Oh oui, je les vois, ces courbes de niveau bien serrées les unes contre les autres pour se faire chaud, alors que les miennes s'ignorent, si éloignées les unes des autres. Moi, je n'ai qu'une peur, que l'un d'eux ouvre notre nid douillet et se saisisse de moi. Ah, s'il vous plaît, laissez-nous ensemble, tranquillement. Pas besoin des hommes pour jouer aux cartes.
Ah. Elle a raison.
Oui, elle a pris le bon pli, elle.
Vous la côtoyez, elle est sympa dans la vie, pas que là, maintenant, non?
Oui, on est collègues on est collègues de travail.
C'est ça,
Moi, j'essaie de lui remonter le moral, finalement. Ouais. Petit coup de 51.
Et ça repart. Et Val Massy, bon, toutes ces cartes-là sont un peu chafouines, je trouve. Hein.
Oui,
heureuse.
Moi, ce ne sera pas à la même échelle qu'on dit, justement, pour les cartes. Moi, je suis le TGV en général et le TGV Arras-Paris en particulier.
Ah oui?
Je suis puissant. Longtemps, j'ai été le train le plus rapide sur Terre. Record de vitesse après record de vitesse. 547 km/h. Si ce n'est pas là aussi la gloire de la France, je vous demande. Mitterrand m'a inauguré, mais une manif scandait. Gare de Lyon, pour le TGV, merci VGE. Ce grand échalas de Valérie. Il ne vaut peut-être pas le général, mais bon. Point besoin de carte, ou alors prenez votre carte de grand voyageur avec moi. Arras est où, me demandez-vous? Arras est là, sur ma carte du tendre, là où Verlaine et Rimbaud, voyageant sans billets et faisant du tapage, ont passé une nuit en cellule de dégrisement, dit le violon. Les sanglots longs du violon, c'est précisément là, c'est celui-là. On peut être nostalgique de tout, vous voyez. Moi, TGV, des trains à vapeur quand j'ai soif. Mais nous voilà arrivés en gare du Nord déjà en 45 minutes. Même pas le temps nécessaire à vous déchiffrer avec une loupe à quatre pattes sur le tapis. Mais là, je m'égare et les gare.
Elle n'a pas tort, hein. c'est vrai.
Non, mais c'est une campagne promotionnelle de la Société nationale des chemins de fer français, dont Eva s'acquitte très bien, je dois le dire. Bon.
Mais voilà, parce qu'il hausse les tarifs, donc il s'arrange pour nous faire préférer le train, c'est ça.
Cela dit, moi perso, je vous méprise un tout petit peu pour une autre raison, puisque j'aime tellement les toutes petites routes que je préfère les cartes d'état-major.
Ça se discute pas. Hein.
Ça se discute pas. Ah, c'est la fille de militaire qui parle.
De toutes les routes de France d'Europe, celle que je préfère est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul de Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le mélange des grandes cités. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. Chasse les aigreurs et les acidités qui font le mélange des grandes cités. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. Remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excite, tout excite, tout excite, tout excite, tout excité. On chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg Valence. On est heureux, National 7.
Traînée, revue par Sanseverino. Morceau de choix pour collectionneurs, un morceau de choix enregistré en 2006 dans la série des grands airs, des airs de repos avec bulles de champagne pour fêter Serge Joncourt, heureux, glorieux lauréat en ce début d'année du prix des deux magots pour son roman L'écrivain national, publié chez Flammarion, du bien bon Joncourt. Comme ce morceau de choix podcasté absolument, vous n'en avez pas encore eu l'occasion. C'était en novembre 2006. Nous étions invités pour des papous en public par l'Association des étudiants de Normale Sup scientifique à Lyon. L'amphimérieux était bondé, des auditeurs partout, assis, debout, sur les marches. Et sur scène, la bande des écrivains pour le Lion des papous. En place pour les grands airs, des airs de repos. Ce sont, vous savez, ces chansons à chanter à tue-tête en voiture quand la monotonie de l'autoroute risque de vous endormir. Les airs de repos sont des lieux tranquilles, mais elles portent parfois de bien drôles de noms qui intriguent et donnent envie d'en apprendre davantage sur leur histoire. Il y a matière à investigation. Ces espaces d'apparence anodine sont parfois ou ont été, bien avant la construction des autoroutes, le théâtre de faits divers étranges. Alors, Serge Joncourt, vous êtes retour d'enquête. Vous avez exploré pour nous l'ère de la Coucourde, c'est ça ? La Coucourde.
La Coucourde.
Voilà. Ça se trouve exactement où ?
Bon, sur la 7, à Montélimar.
Montélimar, entre
ouais.
Montélimar Nord et Sud,
ouais,
c'est
ouais,
ça
ouais, ouais, ouais.
Voilà. Alors racontez-nous, vous y êtes allé ouais. pour enquêter, pour savoir ce qui s'était passé, pourquoi on appelait ça la Coucourde.
La Coucourde, oui, c'est un nom étrange malgré tout.
Mais c'est joli comme nom.
C'est joli. Ouais. Alors, vous vous en doutez, c'est une vraie bizarrerie que cette histoire. Et pour bien prendre la mesure de cette particularité, il suffit donc de prendre l'autoroute A7, oui, comme je vous le disais, au départ de Montélimar, et de rouler paisiblement comme ça, sans dépasser le 130.
Oui. C'est à peu près ce qu'il faut faire, oui.
Ouais. Ouais. Jusqu'à l'aire de la Coucourde.
Oui.
Bon.
Et là, alors là, oui, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, qu'est-ce qui se passe, me direz-vous? Eh bien, voyez-vous, comme c'est le cas sur la plupart des aires de repos, il y a des voitures à l'arrêt, avec des gens qui se reposent. Si ce n'est que le jour, moi, où j'y suis allé, il n'y avait ni voiture, ni personne, évidemment.
Pourquoi?
Ben, il faut dire que c'était un jour en semaine.
Oui, c'était le creux de la circulation.
Sans doute, oui.
Oui.
Ma méthode...
Pour enquêter, c'est quoi?
Oui, pour avancer dans la... Parce qu'il y a un moment, il faut avancer.
Oui, parce
avancer
que là, on n'avance
la...
pas
oui,
beaucoup.
Oui, on y va. Ma méthode d'enquête est celle de... Cette méthode dite d'enquête à la personne.
Oui, c'est-à-dire, mais s'il n'y avait personne, vous avez dit.
Il suffit d'attendre que quelqu'un se présente,
oui,
pour lui poser la question.
D'accord. Oui. Donc,
je me suis garé là sagement, j'ai coupé le moteur, j'ai attendu, il faisait doux, comme c'est souvent le cas dans la région. Il y avait du vent le long du couloir rhodanien. Aucune voiture ne passait. Il régnait un silence quasi total dans cette atmosphère éteinte.
C'est pas une ergue, la Coucourde ?
C'est une ergue, puisque de l'autre côté du grillage, de ces grillages qui bordent généreusement les zones d'autoroute, je vis un paysan qui marchait sur ses terres. Je dis ses terres parce qu'elles avaient l'air d'être les siennes.
C'est un fin limier.
Ça se sent, ces choses-là. À la façon de marcher, je ne sais pas.
Et alors ?
Donc, je sortis de ma voiture pour lui dire poliment bonjour au travers du grillage. Et là, de but en blanc, je lui demandais s'il savait pourquoi l'air de la Coucourde portait ce nom-là.
Oui.
Ouh là là, qu'il me dit, vous avez de ces questions. Si l'air de la Coucourde s'appelle Coucourde, c'est peut-être tout bêtement, parce que courde, c'était trop coucourt.
Oui, ça valait le coup d'aller là-bas.
Je vais vous dire, il me porta un regard plein d'hébétude et de désolation, que je lui rendis.
Est-ce que l'action progresse après ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je lui ai demandé s'il en savait plus. Il m'a dit, moi, vous savez, c'est ce qu'on dit par ici. Là-dessus, je marquais un temps pour reprendre une inspiration déterminée. Parce que quand même, on est là pour avancer. Certes, je comprends bien, monsieur, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas une autre raison, je ne sais pas, moi, à cause d'une vieille histoire, d'un fait divers qui se serait passé là, ou à cause du relief ? Du relief par ici, il n'y en a pas, qu'il m'a dit. Comment ça, il n'y a pas de relief? Mais en descendant depuis Montélimar, j'ai vu plein de cocolines. Alors, je dois vous le dire, mentalement, tout de même, je marquais une pause. Je tentais de me concentrer sur cette soudaine particularité qui piratait mon langage. Était-ce l'effet d'un mimétisme ou de ce curieux courant d'air qui me parcourait le dos ? Toujours est-il que j'avais un mal fou à contrôler une consonne en particulier.
Ah oui.
Tout de même, lui dis-je, en essayant de reprendre mon sérieux, « Coucourde, ce n'est pas très courant. Et comment ?» Sur ces mots, le brave paysan me regarda droit dans les yeux. Il y maintint un regard mi-perplexe, mi-désolé. À n'en pas douter, il aurait bien voulu m'aider, mais même avec la meilleure volonté du monde, je sentais bien qu'il n'y arrivait pas. Son bon sens semblait buté sur un promontoire de perplexité. C'est alors, heureusement, me direz-vous, qu'une voiture s'engagea enfin dans l'aire de repos et se gara non loin de la mienne, en dépit, comme moi. Le conducteur resta à l'intérieur, au point mort, sans bouger. De loin, on lui demanda tout de même. « Dites, vous ne pourriez pas couper votre moteur ?»«
Comment ?»«
Votre moteur, vous ne voyez pas qu'on cause, le paysan et moi. » Il ouvrit sa portière et marcha vers nous, l'œil bavard et l'air conquérant. Je ne comprends pas qu'il nous dit. Je conduisais en parlant au téléphone, quand tout à coucou, je me suis mis à coco-co, oui. Vous ne cassez pas la tête, je lui ai dit. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il paraît, c'est coco comme ça pour tout le monde dans ce coin-coin-là? Mais d'où ça vient, cette coco-connerie-là qu'il me fait? C'est Coucourde, lui répondit fièrement le paysan, arborant une superbe, comme c'est souvent le cas chez les paysans qui savent.
Oui. Souvent, ouais.
Devant ce collège d'intelligence, et face au peu de progrès que faisait mon enquête, je résolus d'appeler du secours à la borne d'arrêt d'urgence qu'il y avait là, histoire qu'un esprit bricoleur et en bonne santé vienne au moins me donner une information concrète. Derrière moi, là-bas, je voyais le paysan et le conducteur lambda qui continuaient de cascader les consonnes dans une conversation qui avait l'air passionnante. On peut dire ce qu'on veut des infrastructures de la nation, mais toujours est-il que 10 minutes après, la dépanneuse était là. Un dépanneur en descendit.
Logique.
Il en sauta, alerte, plein d'initiatives, et il nous lança « Alors ?» Je lui racontais vaguement la situation. « Ah non, qu'il me fait, c'est pas possible, ça va pas recommencer 100 fois, ces conneries-là. Combien de fois il va falloir que je me répète ? D'ailleurs, je vois pas papa où est le problème. » L'automobiliste et le paysan me lancèrent un regard démuni en écoutant les explications du dépanneur, quelque peu énervé. Alors là, j'avais presque envie de me justifier, de lui dire « Écoutez, je n'y suis pour rien, c'est juste un jeu, c'est pour France Culture, les papous, ce n'est pas très grave. » Mais le dépanneur reprit de plus belle, atteint dans son orgueil, comme si on touchait là un sujet crucial. « Et puis d'abord, si vous voulez tout savoir, c'est la DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Le panneau, c'est moi qui l'ai fait. Ah, tiens, que je vous disais, me lançait le paysan.
Alors, cette histoire est pas passionnante, Serge, et donc il faut la mettre en chanson. On a chargé Jean-Bernard Pouy de la mettre en chanson. En chanson.
En chanson.
C'est contagieux.
Ah, comme Hélène de la Voix n'est pas là, j'ai pris la belle Hélène pour chanter tout ça. Sur l'air de la Cocourde, de la Cocourde, de la Cocourde, près de Montélimar, près de Montélimar. Les gens semblent un peu gourdes, semblent un peu gourdes, semblent un peu gourdes. Tout le monde a l'air bizarre, tout le monde a l'air bizarre. Pour vous saluer bien bas, on vous dit bon bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien, merci. Et vous, vous aussi? C'est ça votre babagnole, elle est vraiment drôle, drôle. Passez de bonnes vacances, frais et dispo. Et surtout, bonne route et à bien bientôt.
C'est un air ambitieux, vous avez choisi.
Pour moi. Il a peur de rien.
Pour descendre sur la cocotte, faut s'arrêter là, il faut s'arrêter là. N'ayez pas les chocottes, les chochocottes, les chochocottes. On ne vous mordra pas, on ne vous mordra pas. Vous pourrez tranquille enfin boire un petit coucou. Du château neuf, du papa peu neuf, du papa peu neuf, du papa peu. Ou du Gigondas, ou bien du Gigondas, et reprendre la route, la belle route dans votre espace, et reprendre la route, la belle route avec la classe.
A papuk a fejben, a France kultúrán.
Et oui, en VO, ça donne « Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête ». La brève histoire des choses, c'est une série chronique de Jacques Abertrand que vous pourrez bientôt retrouver en livre. Alors, après le bruit de fond, après la chaise ou le chapeau, on s'intéresse à quoi aujourd'hui, Jacques ?
On s'intéresse à la poche. Il n'y a pas si longtemps, tout l'homme était dans la poche. Quelques sous, un bout de ficelle, un canif, un croûton de pain, plié dans un grand mouchoir de tissu à carreaux. L'homme s'asseyait sur le bord d'un fossé, se coupait d'un coup de couteau déterminé une tranche de pain qu'il mastiquait longuement en songeant à quelque chose. Si c'était l'été, en plein midi, il rangeait le reste du pain directement dans sa poche et se confectionnait une coiffe avec le mouchoir en le nouant aux quatre coins. Oui, tel était l'homme encore très récemment. Il habitait à la campagne. Les querelles de voisinage se traitaient à distance, jusqu'à des kilomètres parfois. Mais sa commère lui conseillait de mettre ses rancunes dans sa poche avec son mouchoir par-dessus. Pouvait-on mieux se remplir les poches ? J'ai connu un garçon à l'école communale qui avait d'immenses poches dans ce qu'on appelait des pantalons courts. Le mot « short » était encore anglais. Les jambes de ses pantalons, qui n'étaient pas si courtes que ça, descendaient jusqu'aux genoux. Juste au-dessous commençaient les chaussettes de laine. Il ne restait qu'un mince espace découvert, suffisant pour les écorchures en cours de récréation. Ce garçon sortait de temps en temps de ses poches pour en faire le compte, tout un bric-à-brac, composé d'aimants, de trombones, de billes, de bouts de crayon, de bonbons collés entre eux et d'un soldat de plomb décoloré, qu'il étalait sur le bord d'un trottoir. Il lui arrivait de vendre quelques billes pour se faire de l'argent de poche. Sa mère se plaignait d'avoir trop souvent à raccommoder. La poche, en effet, à l'instar de la chambre à air de bicyclette, est souvent percée. Soit pour cause de surcharge pondérale, soit parce que le fabricant de pantalons a lésiné sur la qualité du tissu. Le vide-poche ne fut pas toujours en usage. Il n'était pas si important de vider ses poches dans la mesure où l'on ne changeait pas souvent de pantalon. Au départ, simple cendrier réformé, il a fini par atteindre des dimensions rocambolesques. On a vu des seaux à glace et des compotiers en cristal convertis en vide-poche. Tout ce qu'on y vide ne retourne pas toujours dans les poches. De menus objets qu'on aurait juré indispensables, dont on se disait que ça pourrait toujours servir, finissent par paraître superflus ou carrément encombrants. On songe à s'en débarrasser. On les retrouve dans les éventaires des vides-greniers. Il arrive qu'on les rachète. Il est à noter que la femelle de l'espèce humaine a généralement beaucoup moins de poches que le mâle. Elle met tout dans son sac à main, qui contient beaucoup plus, en particulier des compartiments à fermeture éclair. L'homme qui comprend mal la femme la comprendrait encore moins s'il allait fouiller dans son sac à main. On ne saurait trop le lui déconseiller. L'homme affecte de se promener les mains dans les poches pour avoir l'air décontracté. Ou innocent. Rien dans les mains, rien dans les poches. Les manuels de maintien réprouvent formellement ce comportement. Ce serait à peine moins grave que de les mettre dans celles des autres. Ça déforme les poches et ça fait désœuvrer, aurait dit ma grand-mère. Et mal poli. Il existe toutes sortes de poches, des pochons, des pochettes, des poches kangourous, des poches revolvers, des poches de résistance. Les soucis et les fatigues se rangent dans les poches sous les yeux, autrement appelées valoches. À bien des égards, l'homme n'est qu'un porteur de valises. Et l'univers tout entier, qui n'en est peut-être lui-même qu'une très grande, est rempli de poches, souvent vides. Quant à la vie, n'a-t-elle pas des airs de pochade, pleine de bruit et de fureur et ne signifiant rien, comme le prétendait M. William. L'homme a beau fouiller, il n'est pas prêt de connaître le monde comme le fond de sa poche. Et il a beau se fouiller, il ne sait toujours pas bien ce qu'il y a dans ses propres poches, ni dans lesquelles il a placé son porte-monnaie, son téléphone mobile, ses trousseaux de clés ou le bip de la porte du garage. Sans compter que l'État, le commerce et l'industrie, la banque, le voleur, voire le gendarme, les lui font régulièrement.
Il y a une petite dialectique du sac et de la poche. Le sac féminin et la poche masculin, mais il y a une dialectique nord-sud. Quand vous allez dans un magasin à Paris, vous demandez dans une grande surface, est-ce que vous avez un sac ? Dans le midi, si vous demandez ça, on ne vous comprendra pas. Il faut dire, est-ce que vous auriez une poche ?
Ah ouais.
Il y a une très belle phrase de Vialat aussi. C'est... Sans le kangourou, l'homme ignorerait qu'il n'a pas de poche marsupiale.
Ce serait nouveau Ça viendrait juste de sortir. Alors, une page de publipapoucité pour le dire. Pub culturelle et décalée forcément férocement papou par Patrice Caumont, avec Hervé Le Tellier, Dominique Muller et au piano Gabriel Godard pour la chanter, cette publipapoucité. Musique.
On a tous quelques pros en nous de yoursenard. Toutes ces feuilles que Marguerite nous narre. Elle qui mâche ses mots comme des carambars. Qui travaille dur son œuvre mais au noir. Quelques doses de yoursenard. Grand nègre d'Adrien pour ses mémoires. Sous la langue, c'est le divin nectar qui vous emporte l'âme au lupanar. Quelle glucose en nous, la yoursenard. Mais y a pas que yoursenard en Marguerite dont s'effeuillent les grimoires. Y a du racé Marguerite de Navarre qui règle avec nous leurs petites histoires. C'est autre chose yoursenard, loin de celle de la dame aux camélias. Cette Marguerite de fausse est l'avatar. Elle écrit proprement et sans buvard. C'est comme du Claudel mais en moins bavard. Que brille la grande ours noire.
Vous aimez le grec ancien. Chaque matin vous lisez du latin. Alors, dès le petit déjeuner, dégustez un yaourt sanar, le yaourt des Césars.
Suétone vous étonne, Horace vous délasse, Tacite vous excite et Properse vous transperce. Alors, dégustez le yaourt sonar, le yaourt nature qui n'a pas peur de vide.
Léger comme Tibulle, grâce à son napulé demi-écrémé, riche en calcium et en latium, contenant moins de lipides que ripides.
C'est la crème du style, l'inimitable goût de la langue, juste en saluste, c'est nectar de Sénèque, juvénile comme juvénal, yaourt sonar. Nature ou aux fruits, c'est du tite-live en live.
Collectionnez sur chaque boîte de 6 les vignettes qui narrent les aventures d'Adrien, le petit ours noir, la mascotte de nos yaourts, le yaourt sonar, reconnaissable à sa Marguerite, sur son pot en habit vert.
Quelques doses de yoursenard, ça vous rafraîchit vraiment la mémoire. Sous la langue, c'est le divin. C'est plus du yaourt bio, c'est du Mozart. Quelle lactose en nous, le yaourt sonar.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h58, Drôle des pistoliers et des mots nouveaux pour le dire avec Odile Conseil, Jacques Vallée, Serge Joncourt. Donc ils sont 3, Hervé Le Tellier, Jacques Bertrand et Lucas Fournier, 3 écrivains qui chacun endosse un rôle pour un échange en 3 lettres. Hervé, premier épistolier, écrit à Jacques, le deuxième, à propos du troisième, Lucas, parce que, pour une raison connue de lui seul, il ne peut entrer en contact directement avec ce dernier. Le deuxième sera donc un intermédiaire et peut-être brouillera-t-il les cartes pour défendre les intérêts de son personnage. Ce sont de drôles d'épistoliers, comme je l'ai dit. Présentez-vous, Hervé Le Tellier.
Je suis Vlad Tepes.
C'est qui, lui ?
Ah.
Il est connu ?
Oui, mais pas... Bon, il est très connu, mais moins sous ce nom-là.
Ah.
Et il écrit à Bram Stoker.
Ah oui, ah oui.
Oui. Cher monsieur Bram Stoker, je viens de finir votre roman, très bien documenté, à l'écriture incisive, et je voudrais d'abord vous remercier, au nom de tous mes ancêtres, de l'avoir baptisé de mon nom. et j'ai conscience qu'il traversera désormais les siècles, certes un peu déformé, mais n'est-ce pas là le destin des plus grands de Moïse à mon ancêtre Attila ? Bien sûr, Dracula, c'est un peu approximatif, puisque Dracul, dragon en roumain, n'est que le surnom de mon père, et que Draculea, mon propre surnom, signifie petit dragon.
Alors le vrai nom de Dracula, en fait, c'est Vlad...
C'est Vlad Tepes.
Tepes, ah oui.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire un reproche. Dans votre roman épistolaire, tout le monde a le droit de s'exprimer, sauf devinez qui, Bibi. Vous avez une dent contre moi ou quoi ? Pourtant, j'en ai écrit des lettres à Mina, à Renfield, et je peux même vous montrer mon journal qui vous prouverait en deux dans trois mouvements combien chez mes détracteurs le fantasme raciste règne en maître.
Et c'est amusant Dracula quand même, deux dans trois mouvements, c'est charmant. Puis ça passe légèrement comme ça,
très léger.
Il n'en fait pas trop, au cas où on n'aurait pas compris. Enfin.
Et ça va s'arrêter là.
Ah dommage.
Parce que tout ceci m'appelle à vous contacter à propos de ce Abraham Van Helsing. Ce type se prétend docteur en littérature, docteur en médecine et homme de loi. Avez-vous vraiment vérifié ses diplômes ? Abraham Van Helsing, non mais c'est certainement pas son nom. Il vous a emprunté votre prénom, Abraham, et Helsing est l'anagramme de English. Le van entre les deux n'étant là que pour faire hollandais, mais qui peut être dupe, il a un accent allemand à couper au couteau et il lance des mein Gott à tout bout de champ. Des mein Gott, oui, parce qu'en plus ce type est un fou de Dieu, il vit entouré de signes religieux manifestes, on croirait qu'il est représentant un objet de culte. Il se croit investi d'une mission et je crois bien que je ne suis pas en odeur de sainteté. Je suis aristocrate, je n'y peux rien, c'est de naissance et alors ? En anglais, j'ai un accent de l'Europe de l'Est et alors ? Car oui, en plus, je suis roumain. Où est le problème ? Où est le problème ? Van Helsing, vous l'avez entendu parler roumain ? C'est une catastrophe. Buona deminata, previn ventru nuven pil, sti unde este, lamentable. Moi, j'aime m'habiller en noir. So what ? Est-ce un crime de porter la cape avec élégance ? Est-ce un crime de sortir le soir dans la rue ? De craindre le rayon du soleil ? De ne pas aimer l'odeur de l'ail ? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ? Et si vous nous piquez, ne saignez... Non, non. Alors bref, ce type s'est mis en tête de m'assassiner, en plus avec un puits en bois. Ça doit faire atrocement mal. Une fois, je me suis mis une écharpe dans le doigt, j'ai souffert le martyr. Et en plus, il a fini par convaincre du bien fondé de sa quête... Ma tendre Mina, ma chère Mina, je vous lis un passage d'une lettre de la pauvre fille. Le pauvre être qui a causé toute cette souffrance, elle parle de moi, est le plus malheureux de tous. Songez quelle sera sa joie à lui aussi quand, son double malfaisant étant détruit, la meilleure part de lui-même survivra, son âme immortelle. Mais pas du tout, monsieur Bramstoker. Mais de quoi parle-t-elle ? De ma joie à moi aussi, mais je ne me réjouis pas du tout. Je ne crois pas du tout à l'éternité de l'âme, mais pas du tout. Pourriez-vous dissiper cet affreux malentendu ? Ou en tout cas le mettre hors d'état de nuire ? Bon, au cachet de la poste, vous constaterez que je vous écris de Transylvanie, où je suis de retour, depuis que ce dingue et sa petite bande de fanatiques a totalement détruit le manoir où je m'étais installé. Nous venions tout juste de finir les peintures et d'accrocher les rideaux. Je vous envoie les photos afin que vous puissiez faire jouer l'assurance si vous pouvez. Je poste ce message dans la dernière boîte aux lettres avant la passe de Borgo, car je crains le pire. Bien à vous, Vlad Tepes contre Dracula.
Ben, c'est un homme, oui, qui est...
Il est charmant.
Oui, voilà, c'est le terme que je cherchais.
Il
est sympathique, oui.
Il est injustement traité.
Injustement traité par un dingue.
Très, très mal, oui. C'est une tragédie, votre vie.
En fait, oui.
Oui. Et donc, Bram Stoker, c'est Jacques Abertrand.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette
lettre ? Je suis très troublé.
L'homme est sincère.
Je suis très troublé, oui, sûrement. Sûrement, mais je suis assez troublé. Donc j'écris à quelqu'un qui est pratiquement mon confesseur, le cardinal Dubois, de la Sacrée Congrégation du Rachat des Âmes Perdues.
Ah oui, et c'est Lucas Fournier, le cardinal Dubois.
Je suppose.
Oui, hein, c'est ça, Lucas.
Abimo per pectore.
Et alors, qu'est-ce que vous lui écrivez ?
Cher cardinal, vous n'avez pas oublié, je pense, nos longues soirées de discussion dans la campagne romaine sur la question de l'immortalité de l'âme. Figurez-vous que j'y repense alors que je me trouve dans une situation embarrassante. Je viens de recevoir une lettre du comte Dracula, vous savez, Vlad Tepes, qui se plaint amèrement de ce que le docteur Van Helsing le poursuit d'une haine féroce. Ce dernier aurait déjà détruit son château et se préparerait à l'expédier ad patres au moyen d'un épieu de bois. D'après le comte, j'aurais fait dans mon roman une part beaucoup trop belle au docteur, qui n'en serait pas un, et exercerait illégalement différentes sortes de médecine. Vous avez entendu, comme moi, tous ces romanciers qui prétendent que leurs personnages finissent par leur échapper. Je n'aurais jamais cru que cela pourrait aller jusque-là. Pour un peu, ils iraient jusqu'à réécrire les livres. Et pourquoi pas se mélanger entre eux ? Tépès sucerait le sang d'Emma, la princesse de Clèves bridgerait avec Lucien Leven, Pantagruel mangerait la petite chef de Monsieur Seguin.
Non.
Il est vrai que la plupart de ces personnages font plus vrai que nature, et au moins, eux, connaissent leur texte. Je suis inquiet, je vous l'avoue, et pire, je ne saurais plus vraiment où je suis. Puis-je vous poser la question de confiance, cardinal ? Dites-moi, les personnages de romans ont-ils vraiment une âme ? Votre dévoué Bram Stoker.
Ah, il pose quand même une question essentielle, hein, et seul un cardinal peut répondre à ça. Enfin, Dieu au-dessus, évidemment, mais...
Mais par délégation.
Oui, voilà. C'est donc vous, Lucas Fournier.
Illuminé patrie. Donc, je suis le cardinal Dubois, et, oui. Et je m'adresse au comte Dracula.
Ah, directement. Ah, oui. Oui.
Qui ne me connaît pas encore.
Non.
Donc, le cardinal Dubois de la Congrégation des âmes perdues. Cher comte, je m'appelle Dubois et je suis austère. Nolens Volens, depuis 30 ans, je suis le trader du Vatican. On me livre des âmes, je les achète, je les rachète. Le marché de l'âme est porteur. Si tout va bien, je peux continuer Rebus Sixtantibus 30 ans encore. Un type est venu me voir la semaine dernière avec un fauteuil Voltaire. Il m'a dit « Je sais que Voltaire était athée, mais ce fauteuil a une âme ». Objet inanimé, vous avez donc une âme, oui. Donc chez moi, il y a de l'âme forte, de l'âme morte, de l'âme du fond, de l'âme sœur, et aussi de l'amertume. Je me pensais voué au négoce de l'âme éternelle jusqu'à la venue de l'auteur de vos jours, Bram Stoker. Nous avons beaucoup parlé, enfin lui surtout. Et toujours des âmes, perseverare diabolicum. Alors que moi, je suis ouvert à tout, aux colloques, aux débats sur la politique étrangère du Bhoutan, à la sophrologie, au monde des tracteurs ou des copoclephiles. Mais c'est toujours à l'âme qu'on revient. Vous connaissez votre père, Adpatres, et à la fin, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris une grosse bûche, on est bien chauffé au Vatican, et boum, j'ai clos le débat. Lupus homine lupu, l'homme est un loup pour l'homme, l'inverse est-il vrai, le loup est-il un homme pour le loup ? Je ne sais pas, la meilleure façon de répondre serait d'aller voir dans un coin à loup. À Rome, ici, je n'ai que de la louve, mais pas de loupa. Votre père s'en remettra, rassurez-vous, mens sana in corpore sano, moi pas. J'ai donc résolu de quitter les Romains pour les Roumains. Élevez-vous des loups ? Votre château est-il bien chauffé ? Si oui, gardez-moi une grosse bûche et je m'occuperai de Abraham von Helsing, moriturite et salutante. Je suis un garçon austère, je l'ai dit, mais affable. Je vous ferai la conversation et du loup au fenouil. Vivez Valéque, signé le cardinal, avec un petit PS. Je sais que vous craignez les pieux. Je le suis, faut être cardinal, mais je saurais me tenir.
Ouais. Ah, merci pour Père Espiritu.
Oui, c'est une excellente proposition, non ?
Oui. Lamentable, mais intéressante, oui.
Et finalement, l'intervention de Bram Stoker a été décisive.
Décisive.
Ah oui,
décisive.
Oui.
Résus A, 0 ou B, tout m'est compatible, je suis pas compliqué. C'est mon dada, que voulez-vous ? Mon violon d'ingre, mon pérou. Je suis un vampire, sans malice. Pour sucer le sang, je fais pas de liste. Les grosses, les maigres, les laiderons. Qu'est-ce que ça fait tant que c'est bon ? Approche ton coup de mécanique, fais-toi caline sur ma concubine. Ça vaut pas le coup de faire l'amour, approche ton coup. Approche ton coup de mécanique, fais-toi câline sur ma concubine. Ça vaut pas le coup de faire l'amour, approche ton coup. C'était l'autre soir, à la fête. J'ai remarqué le coup de la sous-préfète. Les globules devaient fourmiller. Dans son corps, un tantinet grassouillé. Je lui ai dit sans me démonter. Permettez madame cette requête. Dites-moi si ça vous embête que je vous vampirise en tête à tête. Approche ton coup de mécanique, fais-toi câline sur ma concubine. Ça vaut pas le coup de faire l'amour, approche ton coup. Approche ton coup de mécanique, fais-toi câline sur ma concubine. Ça vaut pas le coup de faire l'amour, approche ton coup. Cher monsieur, me répondit-elle, retrouvons-nous donc à l'hôtel. Mais avant d'y aller, ben, il va falloir que vous payiez. Cela peut vous paraître indigne, d'accord. Vous me trouvez un peu mesquine, d'accord, mais avant que de rêver luxure, je pense à la sous-préfecture.
Ah, boule tes sous, je te donne mon cou si ta boule tes sous. Ça vaut pas le coup de faire l'amour à boule tes sous.
Approche ton cou de mes canines, fais-toi câline, sois ma concubine. Ça vaut pas le coup de faire l'amour, approche ton cou.
Ah, boule tes sous, je te donne.
C'est Vampire, et c'est chanté par Louis Chédid. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, des mots nouveaux pour le dire. Alors, les dictionnaires de la langue française comptent en moyenne entre 60 000 et 100 000 mots, et pourtant, il manque des mots. On est parfois obligé de passer par une longue phrase pour dire une certaine action en même temps qu'un certain ressenti, et c'est la raison pour laquelle, au Papou, nous imaginons des mots nouveaux. Un exemple que j'adore, c'est le roussita. Le roussita qui est le petit cafard du dimanche matin qui va croissant jusqu'au samedi soir suivant. Il fallait un mot et c'est Serge Joncourt qui l'a trouvé, ce mot qu'il a inventé. Et la zibouclette. Si vous avez le dictionnaire des Papous dans la tête sous le nez, vous savez ce que ça signifie, la zibouclette. Sinon, je vous explique. La zibouclette, c'est une campagne électorale que l'on mène sans trop savoir soi-même pour qui voter. C'est utile, non? Alors aujourd'hui, c'est Odile Conseil qui a inventé les mots nouveaux, 6 au total. On les découvre, ainsi que le texte qu'elle a imaginé pour les faire vivre ensuite. Et avant de vous en recommander l'usage, mots et textes seront confiés à Serge Joncourt, à Jacques Vallée pour traduction. On découvrira si les mots d'Odile font sens et image, et quel sens, quelle image, peut-être 2 ou 3. Vos mots nouveaux, Odile, alors, je suppose qu'il y a des verbes, des substantifs peut-être.
Eh bien, les deux, mon général.
Oui.
Il y a, je dirais, 3 substantifs et 3 verbes.
C'est très bien réparti. Allez, on découvre.
Un verbe bengaler.
Bengaler. Alors, ces mots, Serge Joncourt, Jacques Vallée, vous concernent. Donc, d'accord. Écoutez-les bien parce que vous devrez leur trouver un sens et puis traduire le texte que dit le conseil bengaler, aura imaginé.
Bengaler avec un A ou un E?
Un A au début, un A au milieu et un E à la fin. Verbe donc, du premier groupe.
Vous voilà bien renseigné.
ER.
ER.
Après.
Dromège. Nom féminin.
Une dromège.
Employée essentiellement au singulier.
D'accord.
La dromège.
Et c'est deux M, G ou J?
ME accent grave, G-E.
G-E.
C'est un maniaque de l'orthographe.
Oui, mais ça change tout, en effet, il a raison.
Je suis tellement mauvais en orthographe qu'il faut bien des précisions.
Non, mais la chose importante qu'elle a dite, quand même, c'est qu'on emploie plutôt un adjectif défini que indéfini avec.
Je l'ai dit, oui.
Hein,
je
la dromège plutôt qu'une dromège. Froncez pas le sourcil, vous connaissez la différence, Serge Joncourt.
Oui, ah, enfin, oui. Est-ce vraiment déterminant?
Ah, c'est quand même un sérieux indice qu'elle donne, non? Après.
Ensuite, je vous offre une gloutifaille.
Gloutifaille.
A-I-2-L-E.
Oui.
Ensuite, produmire. Verbe du deuxième groupe.
Comment?
Ça fait issant au participe
voilà,
présent.
Produissant. Un autre verbe, brodicher. Du premier groupe.
Réaction, Serge?
Sûrement que le texte m'aidera à contextualiser.
Bien sûr, mais vous êtes un bon traducteur.
Qu'est-ce que brodicher quelque chose? Transitif, intransitif, déjà.
Ah, ça, vous avez le droit de poser la question, Odile.
Oh, je ne veux pas l'embêter. Avec
vous pensez qu'elle ne sait pas?
Non, mais je veux dire...
Merci beaucoup, Serge Joncourt. Non, mais je suis trop touché.
Un peu des deux.
Et enfin, une zive. Z-I-V-E.
Ça sent l'animal.
Oui, à ne pas confondre avec Ziva.
Non, évidemment. Alors, ces mots, bon, vous les avez inventés, ils sont ce qu'ils sont, ils sont plutôt beaux. Ils sonnent bien, en tout cas, à l'oreille, quand on les écoute. Patrick s'est endormi en les entendant, mais enfin, c'est pas toujours un mauvais signe. Et ensuite, vous vous êtes amusé, Odile Conseil, à leur faire vivre leur existence de mots dans une histoire que vous avez imaginée et qui porte un titre probablement, mais un titre qui ne va rien révéler.
Bien évidemment, c'est une histoire courte hein, qui s'appelle « Produmire, dit-il ».
Ah.
D'ordinaire, Marcel Bengalet. Mais ce jour-là, était-ce la pleine lune ou la dromège, il descendit sur la pointe des pieds, prit la gloutifaille de son frère et marcha résolument vers l'immensité mouvementée. Mais Marcel produit mi sans hésiter, avec délice même. Si maman savait ça. En rentrant, il fit bien attention à brodicher, mais se prépara quand même une zive, on ne sait jamais.
Ah, ça a l'air assez clair. Hein.
En tout cas, j'ai dit, il y a deux personnages. Hein,
ouais.
Donc Marcel Bangalais et Marcel Pourdumi. À moins que ce soit le même, qu'il fasse des choses différentes.
Et il y a son frère aussi.
Oui, à trois.
Et la maman même.
Ah oui, mais il y a un monde fou dans cette courte histoire.
Vous avez une idée, Patrick Béni, vous n'êtes pas concerné par cette histoire ni par les mots d'Odile, si ce n'est comme auditeur, tout comme moi. Vous avez une idée de ce que ça pourrait raconter, non?
Oui, oui.
C'est des mots qui vous parlent.
Oh, combien.
Et qui vous racontent plein de choses passionnantes.
Plein de choses, oui.
C'est formidable.
Il ne peut pas nous en dire plus, ça serait évidemment nous influencer.
Serge Encourt, Jacques Vallée, vous avez bien travaillé sur les mots d'Odile.
Ah oui, c'était des beaux mots.
Hein, c'était charmant, assez inspirant, non? C'était facile de la traduire, parce que être dans la pensée d'Odile, c'est pas évident.
Un bon traducteur se laisse guider par les mots.
Oui, il se laisse pas du tout influencer par l'auteur, c'est ça l'idée.
Il y a deux écoles.
Il y a deux écoles. Alors, on va reprendre les mots les uns après les autres. Odile, vous aviez donc imaginé six jolis mots. Hein. Mm-hmm. Il y avait le verbe « bangaler ». N'est-ce
oui,
pas?
Je confirme.
Alors, Jacques Vallée, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, bangaler?
Ben, bangaler, c'est passer la nuit devant la télévision et aimer surtout, quand les émissions sont terminées, sur une chaîne, regarder la neige qui vibrillonne sur l'écran.
Ah, oui, monsieur est un poète. Il y a ça, ben, je m'aperçois que je ne vais jamais jusqu'au bout de la nuit
oui, mais
avec la
mais
télévision.
Je me réveille souvent avec du blanc.
Ah oui, ah oui. Et pour vous, Serge, bangaler, c'est la même chose? Non.
Non, bangaler, c'est dormir comme un loir, en haut d'un phare, alors même qu'on devrait le surveiller.
Ah, alors même qu'on devrait surveiller ce qui se passe, les bateaux, tout ça.
Oh, bah, vous savez en gros l'usage d'un phare.
C'est pour éclairer la nuit les bateaux, la mer.
Oui,
en gros, une fois qu'on l'a allumé, on peut aller se coucher d'habitude.
C'est pour les guider, les bateaux, en fait.
Oui, et pour veiller, effectivement, à ce que le phare soit toujours bien éclairé, actif.
Ah oui,
on va
oui,
dire.
Donc oui. C'est plus surveiller que le phare fait bien son boulot.
Surveiller que le phare éclaire bien la mer et non pas les bateaux, parce que les pauvres.
D'accord.
je vois, en gros, le principe du phare, c'est une sorte de spot lumineux. Hein,
oui,
qui est là, très loin, et qui sert un peu de repère, si vous voulez.
D'accord,
la vocation du phare n'est pas d'éclairer les bateaux pour qu'ils y voient clair, parce que sinon, ça devient un métier très compliqué. Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, hein, mais bon, il y a des dissidents, toujours. Hein.
Bon, très bien. Autant pour moi, est-ce que Odile conseille avec cette définition de Serge ou celle très jolie de Jacques Vallée, enfin celle de Serge Joncourt est bien aussi, hein, est nécessaire. Voilà. On se rapproche de votre sens à vous.
Il y a quelque chose dans les deux qui est lié au sommeil, mais ça veut dire tout simplement se coucher de bonne heure.
Bangaler ?
Voilà.
Même pas comme Marcel, quoi, juste se coucher de bonne heure.
La première phrase, c'est d'ordinaire Marcel Bangalais.
Ah, oui.
Oui, mais se coucher de bonheur, on peut dire se coucher de bonheur.
Oui, on n'avait pas besoin d'inventer un mot.
Oui, mais ça surprend toujours quand quelqu'un se couche
pour,
tôt.
Pour dire s'endormir devant la télévision et se réveiller quand la neige tombe, on peut dire aussi comme ça.
Oui, voilà,
oui.
Mais,
non,
oui,
mais
oui,
un
oui,
petit peu le principe du mot voilà. Nouveau, c'est de dire en raccourci une chose qui est très longue, quoi, qui nécessiterait une dizaine, une quinzaine de mots.
D'abord, se coucher de bonheur, je trouve que c'est quelque chose qui est assez rare. Et donc, des choses rares méritent un mot à elle toute seule.
Oui, très bien, bien défendu, bien défendu. On l'attend au mot suivant quand même. Qu'est-ce que c'est que la dromège, Jacques Vallée?
Ben, c'est la tempête tropicale qui tous les ans ravage les côtes du Nil. Mais en l'occurrence, c'est la Martinique ici, parce que à la Martinique, souvent, il y a des dromèges.
Ah oui.
Et ça, comme ça a toujours des prénoms féminins, c'est pour ça que c'est féminin, la dromège.
Ah, mais voilà, puis c'est assez joli en plus.
Oui.
Les tempêtes ont toujours des noms assez charmants.
Oui, voilà, oui. Hein?
Serge Joncourt.
On n'est pas loin, c'est étonnant.
Ben, on est au bord de la mer avec votre
phare.
Oui,
mais sinon, que la dromège ou les dromèges, en fait, c'est ce mouvement de va-et-vient que fait votre habitat dès lors que le vent souffle à plus de 120 nœuds. C'est beaucoup, 122. Hein. C'est très beaucoup. Hein.
C'est oui. très beaucoup.
Oui. Donc, ça, la Drommège, c'est ça. C'est...
Voilà, donc, on est dans un bateau, quand même.
Justement, non, parce que la Drommège en bateau, finalement, elle n'a rien de surprenant. Alors que la Drommège...
Au départ, il dormait dans un phare.
La Drommège, vous voulez, dans un bâti, dirons-nous, est hautement plus inquiétante.
Je ne comprends rien, l'histoire de
Serge. Il n'y a pas de phare sur les bateaux.
Bon, il n'y a pas de phare, on n'a pas le droit de donner de la lumière au bateau.
Oui.
Bon, la Drommège, Odile.
La Drommège, c'est l'inhabituelle douceur de l'air un soir d'hiver.
Il fallait un mot.
Oui, oui.
C'est le mot.
Trop rare, mais ça arrive.
Et elle l'a trouvé, le joli mot, la Drommège. C'est un côté dromadaire et puis neige. Et...
Oui, je pense que c'est dromadaire qui a inspiré à Serge le mouvement de va-et-vient, d'ailleurs.
Redites-nous votre charmante définition.
Inhabituelle douceur de l'air, un soir d'hiver.
Bah, c'est vrai, puis c'est nécessaire en plus. Hein. Alors, le mot suivant, qui est moins joli, moins glamour, je dirais, c'est la gloutifaille. C'est pas...
Oh bah si, ça peut être
bien.
Agréable.
C'est vrai.
Pour moi, c'est un cocktail de drogue à base d'herbes aromatiques que les dames, la plupart du temps des sorcières, vendent sur le marché créole.
Ah, oui, alors effectivement, ça...
Et c'est tout à fait la gloutifaille. Vous prenez de la gloutifaille et vous partez en l'air.
Ouais. Ah oui, vous partez en l'air carrément.
Vous
montez en haut du phare de Serge. Serge, la gloutifaille.
Gloutifaille, d'ailleurs, très probablement, ça vient de l'anglais, sûrement. Mais bon,
oui.
C'est un canot, hein, si vous voulez, un canot.
Oui.
Un canot d'ultime secours,
oui.
Dont on ne se sert jamais, ne serait-ce que par superstition.
Ah oui, parce que ça voudrait dire que les choses sont graves.
Trop graves.
Ah oui, voilà, il fallait un mot, c'est évident. Donc on le laisse pas trop loin du phare, tranquille, quoi, pour le surveiller.
On prie surtout pour ne jamais s'en servir.
Ah oui. Ce sont des textes, enfin, un petit peu graves. Enfin bon, il y a la gloutifaille chez Jacques Vallée qui est plutôt joyeuse, mais autrement, il y a de la tempête, il y a un canot dont il ne faut pas se servir. On a un peu cette ambiance dans votre texte, Odile.
On a une ambiance assez maritime, puisque la gloutifaille est une combinaison de bonne épaisseur qui permet de prendre des bains dans une mer à 8 degrés.
Ah, ça, c'est bien, oui. Mmh. Oui. Produmire, ce fameux verbe du deuxième groupe qu'a proposé Odile Conseil. Jacques Vallée, produmire.
C'est se mettre nu et courir sous la pluie jusqu'au rivage en poussant des cris sauvages.
C'est après avoir pris la gloutifaille, non?
Elle était forte. Hein.
Qui fait office de combinaison, finalement.
Ça veut dire quoi pour vous, Serge?
Non, c'est très court, mais c'est essentiel. Hein, c'est...
Oui.
Produmire, c'est ramer sous l'eau.
Oui, c'est un peu comme se coucher de bonheur, quoi. C'est... Pourquoi créer
un
mot
pour ça ?
C'est
un peu plus grave.
Hein. Oui.
On en est là,
parce que ce n'est pas habituel, quoi, de ramer sous l'eau.
Non, ce n'est pas courant.
C'est pas
vraiment
bon signe.
La mer est forte.
C'est avec le canot de survie qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Odile Conseil, produmire ?
Se jeter à l'eau sans ressentir le froid, grâce à sa gloutifaille.
Eh bien oui, évidemment. D'où l'obligation d'inventer les deux mots. Hein. On va demander à Jacques Vallée maintenant de s'intéresser au verbe brodicher.
Ah ben brodicher, c'est plutôt agréable. C'est se frictionner avec de l'alcool de 90, puis passer sur son corps un gant de crin, et enfin éprouver un bien-être total en se séchant devant la cheminée.
Mmh. Ah mais vous allez prendre feu.
Pourtant vous êtes à la Martinique, il y a le feu de bois dans la cheminée et tout.
Ah oui, mais là, à l'occasion on a allumé un feu quand même.
Vous êtes de passage, quoi. Vous ne connaissez pas les coutumes locales. Qu'est-ce que ça veut dire brodicher pour vous, Serge Joncourt?
Oui, alors brodicher, c'est marcher sur la pointe des pieds dans la chambre de son conjoint. Alors qu'il y dort déjà et qu'on n'y est absolument pas attendu.
Ah oui, et pourquoi on y va alors?
Pour lui faire une surprise.
Moi, je ne veux pas rentrer dans les intimes.
Vous savez que ça arrive que l'on rejoigne son conjoint.
Dans sa chambre.
Dans sa chambre, ça arrive.
Sans y être attendu. Oui, non, c'est vrai. Donc il fallait un mot, il fallait un verbe.
On peut avoir une chambre, un conjoint et de revenir soit tard, soit mal à propos.
Brodicher, alors c'est vous qui avez imaginé le mot. Quel sens vous lui avez donné, Odile ?
Et Jacques Vallée n'est pas très loin, parce que brodicher, c'est mettre sa gloutifaille ou plus généralement ses vêtements mouillés à sécher devant le radiateur.
Ah, évidemment, le feu de bois est plus poétique, mais le radiateur est très utile parfois. Bon, et on arrive au dernier mot, la zive, dont Odile Conseil avait bien dit qu'il n'y avait aucun rapport avec ziva. La zive, Jacques Vallée.
Alors, c'est se préparer un grand bol de rhum brun qu'on avale d'un trait pour se prémunir contre la fièvre.
D'accord. Alors, chez Jacques, on a froid, on a la fièvre, on n'est pas bien.
Lorsque vous êtes tout nu dans un ouragan, vous rentrez, vous n'êtes pas très frais normalement.
Et si, au contraire, vous êtes très frais.
Oui, mais enfin, vous avez besoin de vous prémunir contre...
Peut-être. Oui, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. La zive pour Serge Joncourt.
C'est la répartie cinglante que l'on prépare d'avance face à quelqu'un qui ne vous a encore rien dit.
Ah oui, ça
c'est pas mal.
Et parfois, on reste sur sa zive, parce que...
Eh oui. La zive, Odile.
Alors Jacques, excellent traducteur, puisque la zive, c'est une boisson chaude roborative pour prévenir la fluxion de poitrine.
Ah oh. Mais il voit en vous, oui, Jacques Vallée, hein ?
L'instinct du traducteur,
oui. Oui. Moi, j'aimerais bien écouter vos textes, comme ça, sans les interrompre. Enfin, vos textes, qui sont directement inspirés par l'imagination de Dil Conseil, quand même. Oui. Jacques Vallée.
Je l'ai intitulé « Le petit sauvage ». D'ordinaire, Marcel passait la nuit devant la télévision. Il aimait surtout, quand il n'y avait plus d'émission sur une chaîne, regarder la neige qui vibrillonnait sur l'écran. Mais ce jour-là, était-ce la pleine lune ou la tempête tropicale qui ravage tous les ans les côtes de la Martinique, il descendit sur la pointe des pieds, prit le cocktail de drogue à base d'herbes aromatiques que son frère avait acheté au marché créole et marcha résolument vers l'immensité mouvementée. Marcel, sans hésiter, courut nu sous la pluie jusqu'au rivage en poussant des cris sauvages, avec délice même, si maman savait ça. En rentrant, il fit bien attention de se frictionner avec de l'alcool de 90, puis à passer sur son corps un gant de crin, éprouvant un bien-être total à se sécher devant la cheminée. Mais se prépara quand même un grand bol de rhum brun qu'il avala d'un grand trait pour se prémunir contre la fièvre, on ne sait jamais.
Et vite au lit, non? C'est très joli. Et puis, il se passe plein de choses. Hein, Serge Joncourt, on vous écoute, vous. Parce qu'après tout, les mots imaginés par Odile Conseil peuvent très bien être proposés à tous avec des sens différents. Oui. Après, on les emploie comme on a envie de les employer. Alors, Serge, vos sens à vous.
D'ordinaire, Marcel dormait comme un loir en haut du phare, alors même qu'il devait être en train de surveiller la mer.
Ouais.
Mais, ce jour-là, était-ce la pleine lune où les mouvements de va-et-vient incessants de sa chambre, dès lors que le vent soufflait à plus de 120 nœuds...
C'est beaucoup, 120 nœuds, oui.
C'est pas humain. Point d'interrogation. Il descendit sur la pointe des pieds, prit le canote d'ultime secours dont on ne se sert jamais, ne serait-ce que par superstition, de son frère.
Ah, c'est celui de son frère, oui, évidemment.
La superstition, peut-être. Je ne fais que traduire. Hein, je suis un bon traducteur.
Oui. C'est en traduction automatique.
Il ne fallait pas l'oublier, hein, le frère. Là.
Oui.
Il fallait le caser, quand même.
Donc, et marcha résolument vers l'immensité mouvementée.
Ça, c'est très beau. Hein.
C'est beau.
Avec un canot, il marche.
Eh ben, il le porte, oui.
Il est sportif, quoi.
Vous avez déjà fait du
canot. Pas, Jacques Vallée.
Oui. Il est né sur l'îlot, oui, j'ai compris.
Je vous ferai un dessin.
Non, mais imaginez la situation un petit peu.
Oh là là, ces traducteurs, ils n'ont aucune imagination. Voilà. Bien. Mais Marcel rama sous l'eau sans hésiter, avec délice même.
Oui, c'est il a peut-être un tuba.
C'est un...
Enfin, pour respirer à l'extérieur.
Oui, il a du souffle. En rentrant, il fit bien attention à marcher sur la pointe des pieds dans la chambre où sa femme dormait déjà, et alors qu'elle ne l'attendait absolument pas.
Oui.
Mais il se prépara quand même une répartie bien saignante que l'on prépare, effet de rhétorique, d'avance, face à sa femme qui ne lui avait encore rien dit.
Ouais, non, mais il s'attend au pire quand même. Ça sent pas bon pour leur ménage. Hein. Ah, déjà, le couple est un peu en péril.
Ce que ne dit pas le texte, c'est si sa femme est bien seule évidemment, dans le lit, ça, on ne sait pas.
Est-ce qu'on peut poser des questions?
Je pense que c'est nécessaire.
Déjà, ça s'en est une.
Ce que dit le texte, c'est si maman savait ça, et maman, elle est devenue la femme.
Ce type, son métier est de garder un phare. Et il retourne chez lui, se coucher comme ça, tranquillement, parce que ça tangue un peu.
120 nœuds. Oui, vous avez une idée de ce que ça vous fait? Mais je sais bien que vous êtes gavé à la glutify, vous n'avez peur de rien.
Non, mais, il a sa maison, elle est au pied du phare, il habite au pied du phare.
Ah oui, mais c'est vrai, j'avais oublié ça.
Puis la conscience professionnelle a ses limites, Jacques Vallée.
Comment il rame avec un canot dans sa maison?
Eh bien, il rame sous l'eau, comme il est dit, si vous ce qui est, somme
toute... Donc en fait, il fait demi-tour très rapidement.
Non, mais Serge va vous faire le dessin, et il va vous l'envoyer. Je vois très bien la scène, et elle a raison, Odile, il habite au pied du phare. Comme c'est logique, moi je pensais qu'il y avait un petit appartement en haut des phares. À l'époque où les gens vivaient dans les phares, mais j'ai, comme on l'a entendu, des notions assez infimes.
On va aller faire un tour en Bretagne.
Des phares, de la mer et de tout ça, quoi.
Et en dépit de ce magnifique roman interactif qui se passait en haut d'un phare récemment, Françoise.
C'est vrai. Mais j'en ai appris beaucoup à ce moment-là, vous savez. Le phare du Moldu pour les 30 ans des Papous, oui. À réécouter le podcast. Donc, Odile conseille avec vous, on est tranquille, on est dans son lit, on dort.
D'ordinaire. Marcel se couchait de bonne heure. Mais ce jour-là, était-ce la pleine lune ou l'inhabituelle douceur de l'air en ce soir d'hiver? Il descendit sur la pointe des pieds, prit la combinaison de bonne épaisseur qui permet de prendre des bains dans une mer à 8 degrés, c'était celle de son frère, et s'achemina résolument vers l'immensité mouvementée. Mais Marcel se jeta à l'eau sans hésiter, avec délice même, sans ressentir le froid grâce à sa combinaison de bonne épaisseur, celle qui permet de prendre des bains dans une mer à 8 degrés. Si maman savait ça! En rentrant, il fit bien attention à mettre la combinaison à sécher devant le radiateur, mais se prépara quand même une boisson chaude roborative pour prévenir la fluxion de poitrine. On ne sait jamais.
L'ambiance chez Odile est quand même plus douce. Bon, il y a une petite sortie comme ça, mais on se protège, on fait attention à soi, on est prudent.
Marcel est un enfant fragile, je pense qu'il a de l'asthme.
Et il tousse. Bon, évidemment, là... La maman d'Odile est devenue la femme chez Serge en cours, chercher l'erreur.
C'est courant, c'est Oedipe. Vous voyez bien comment vous observez comme moi.
Maman un jour, femme un autre.
Oui, voilà, nos congénères. Maman, c'est même courant. Tiens, maman, va me chercher.
Les nouilles, la cuisine.
Non, mais c'est affectueux, maman.
Va me chercher mes chaussons.
Oui, c'est ce que vous dites à votre compagne.
Non, mais enfin bon, là, c'était pas un texte personnel. Là. C'était une traduction.
Oui, c'est vrai.
Quelqu'un d'autre.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an, rubrique podcast. À réécouter pendant 1000 jours et nuits à la demande sur la page du 15 février où vous pouvez glisser vos remarques, vos questions, vos suggestions en commentaire. Et puis je vous conseille la balade du dimanche sur notre site, aux pages Vie du Club et les livres des papous. Au revoir. Dans quelques instants, place à Tire ta langue, l'émission d'Antoine Perrault. Passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture.